Le programme du studio Kalangou que vous suivez, il est 18h. Tout de suite, le journal dans une présentation de Nefis Adam Sirfo. Au sommaire de cette édition, le programme d'appui aux élections nigériennes de 2021 a été lancé hier à Niamey. C'est un financement du peuple américain d'un montant d'un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Des maisons et baraques démolies par les pouvoirs publics hier au quartier Sagagourou de Niamey. Dans ce journal, la désolation des habitants qui disent être surpris par une telle mesure. Nous parlerons en partie magazine des difficultés rencontrées dans la bonne marche du district sanitaire de Falmey dans la région de Dosso. Bonsoir à tous. Promouvoir une alternance démocratique pacifique à travers des élections libres, transparentes et inclusives au Niger, un programme financé par le peuple américain par l'intermédiaire de son agence pour le développement international USAID, objet de lancement hier à Niamey entre l'ambassadeur américain et le président de la commission électorale indépendante à CENI. Il s'étalera sur 3 ans et coûtera 4 millions de dollars, soit 2,3 milliards de francs CFA. Le résumé de la présentation de ce programme avec le chargé de programme du National Democratic Institute NDI, Harouna Noureddine.
Il contribuera à aider la CENI à relever les défis importants liés à la création d'un fichier électoral biométrique inclusif et à l'organisation d'élections transparentes, inclusives et pacifiques. Ce programme apportera des corrections et des ajustements à la mise en œuvre si nécessaire. La deuxième approche, c'est l'approche « do no harm », donc qui signifie « ne pas nuire », pour assurer que les activités du programme ne renforcent pas involontairement les obstacles existants à l'inclusion, exacerbent les tensions politiques sous-jacentes ou mettent en danger les participants. Et enfin, c'est l'approche genre et inclusion, étant entendu que la démocratie est plus susceptible de se développer et de perdurer lorsque toutes les couches sociales ont la chance de participer au processus politique sans aucune discrimination.
Des propos recueillis par Rukayatou Abdurrahman. Après une mission effectuée en Arabie Saoudite dans le but d'améliorer les prochains pèlerinages avec les autorités saoudiennes, le commissariat à l'organisation du Hajj Koho ont mis en place de nouvelles mesures, des mesures selon le chef de la cellule communication du Koho d'identification plus sécurisée du futur pèlerin pour faciliter l'obtention du visa et régler d'autres questions administratives. C'est Doumaman Mounassirou au micro de Rahilatou Soumana.
Une innovation cette année, c'est l'empreinte digitale. Il y a beaucoup de pays qui étaient soumis à cette obligation, mais pour des questions de renforcement de sécurité et de vérification d'identité, cette année, cette mesure nous a concernés. Les dispositions sont en train d'être prises actuellement. Nous allons voir comment mettre en œuvre véritablement l'applicabilité de cette mesure saoudienne. Il y a aussi des nouvelles mesures nigériennes. Au niveau du Koho, nous sommes en train de connaître un peu des réformes du point de vue des textes. Après 5 ans d'existence, de faire un peu le bilan et d'apporter les corrections là où il faut. Nous serons bientôt en possession de ces textes. Nous allons les vulgariser de manière à ce que chacun comprenne son rôle. Le dernier point sur lequel nous avons échangé avec ces chefs d'agence, c'est leur situation administrative et financière. Le renouvellement de leur agrément qui doit se faire périodiquement et un certain nombre de situations d'impayés qu'ils ont vis-à-vis des structures de l'organisation du Hajj, ils ont pris l'engagement de les régler et faire en sorte que la machine redémarre à zéro.
Une fraction du Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger, MJRN, sous le commandement de Mahamad Tinay, a remis les armes la semaine dernière aux autorités militaires et civiles de Dirkou, département de Bulma, région d'Agadez. Selon Omar Mahamad Boublay, le secrétaire général du dit mouvement, cette action intervient dans le cadre des négociations qu'ils ont eues avec les autorités nigériennes il y a quelques mois. Il est joint au téléphone par Tarnan Foudey Ahmed.
Nous sommes engagés à déposer les armes parce qu'auparavant, il y a 2 mois de cela, donc nous sommes rendus à Niamey et rencontrer les plus hautes autorités du Niger, à savoir le président de la République et le premier ministre de l'Intérieur. Nous avons discuté des problématiques de cette zone, à savoir le Kawar Manga. Nous sommes engagés à déposer les armes. Donc c'est ici qu'il fut fait.
Vous êtes au nombre de combien?
Nous sommes à 160 éléments ici présents.
Vous êtes nombreux à déposer ces armes. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire?
Pour l'instant, donc, nous allons partir à Niamey encore pour une deuxième rencontre avec les autorités. Donc après, on vous confirmera ce qui sortira de la rencontre.
En bref, le commissaire de l'Union africaine pour la paix et la sécurité, Smaël Chergui, a déploré lundi à Addis Abeba en Éthiopie, où l'UA est réunie en sommet, que le terrorisme en progression dans le Sahel et a appelé à combiner la réponse militaire à une lutte contre ses causes profondes, notamment économiques et politiques. Chergui a par ailleurs regretté les difficultés de financement de la force G5 Sahel, qui n'a encore jamais été au contact des djihadistes. Les troupes sont prêtes, mais ce sont les équipements qui manquent, a-t-il assuré, rapporte une dépêche de l'AFP. Je l'annonçais en titre, démolition hier au quartier Sagagourou de Niamey de baraques et maisons avec usage de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. Les habitants montrent leur désolation, semble-t-il, pour n'avoir pas été avertis à temps. Voici quelques réactions recueillies sur place par Diallo Maria Makenda.
Actuellement, ils sont en train de démolir. Certains disent que c'est pour tracer une route. Et selon d'autres, ils dégageront des allées et la démolition ne concernera que les maisons qui seront sur les axes. Ils ont déjà détruit beaucoup de maisons. S'ils nous avaient avertis, nous aurions dégagé nos effets. Aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe pour nous. S'ils nous dégrébissent, où irons-nous avec nos familles? Où allons-nous dormir? Chez qui pourrions-nous vivre maintenant?
Ce sont des femmes et des enfants. Où voulez-vous qu'ils viennent passer la nuit? Les faire déguerpir pour quel lieu? Quel genre de vie les attend? Ils habitaient ici pendant des années. Si au moins ils ont un lieu pour se réinstaller. Mais les faire déguerpir comme ça, c'est une atteinte à leurs droits.
Il y a des gens qui sont en voyage et ont laissé leur maison fermée. Personne ne sait les dommages qu'ils ont subis. Nous-mêmes avons perdu nos biens. Ils devaient d'abord nous avertir et convenir avec un délai raisonnable pour qu'ils ramassent leurs biens. Et non nous brutaliser ainsi, comme si nous ne sommes pas des Nigériens.
Selon les responsables de la ville de Niamey, ces démolitions trouvent leur fondement dans une décision de justice qui a tranché le litige foncier entre des propriétaires de ces terrains litigieux dont certains les ont acquis avec un présumé indélicat en fuite. À Losgungu, un quartier de Niamey sous les bords du fleuve, les eaux se sont retirées après une crue qui a dévasté 4 hectares et demi de la coopérative maraîchère des femmes. Aujourd'hui, nous avons commencé à répiquer quelques semences sur le périmètre sans encore aucun appui des autorités. C'est ce qu'a affirmé ce matin la présidente de ce regroupement de femmes, Madame Safi Issa, au micro de Gungu Mahamad Dantani.
Voilà que la crue s'est retirée et nous avons commencé à repiquer quelques semences sur notre périmètre. Nous nous sommes débrouillés pour les avoir. Cela fait 20 ans que nous travaillons cet espace. C'est deux fois seulement que nous avons bénéficié de l'aide. Pourtant, c'est le premier terrain exploité par ces femmes à Niamey. Actuellement, nous sommes en train de semer du gombo sur ce périmètre. Nous voudrions tout d'abord semer du moringa que nous avons l'habitude de cultiver. Nous hésitons encore parce que même si nous semons du moringa, pendant la saison des pluies, nous serons encore une fois de plus victimes d'inondations. Nous lançons un appel aux autorités afin qu'elles nous viennent en aide. Elles ont la lourde responsabilité de protéger les populations. Depuis que la crue a emporté nos semis, nous n'avons reçu l'aide de personne. Les responsables de la fédération sont venus nous voir. Ils nous ont même pris l'engagement de mener un plaidoyer en notre faveur.
L'actualité en région, le Kori Telwa, cette rivière qui passe dans la ville d'Agadez, draine d'importantes quantités d'eau pendant les saisons pluvieuses. Dans son lit se dépose un sable d'une qualité rare utilisée dans la construction et occasionne des désagréments aux maraîchers. Pour les responsables de la commune, cette situation ne peut perdurer. Algamis Islamana, secrétaire général de la commune urbaine d'Agadez, sur les dispositions envisagées.
Nous avons même pris des dispositions par rapport à l'exploitation de ces carrières. À l'issue du prochain conseil, on va même fermer certaines carrières parce que leur exploitation constitue une menace aujourd'hui pour les jardiniers, pour les riverains et même pour l'ensemble de la population de ces quartiers concernés. C'est des protections des berges qu'on a fait à des coûts vraiment très exorbitants et qu'aujourd'hui, des individus pour des intérêts personnels sont en train d'exploiter illégalement ces carrières. Nous allons mettre des agents sur ces sites-là pour surveiller les exploitants de ces carrières-là en même temps que la mairie puisse être dans ses droits par rapport à la taxe en tant que l'exécutif de la commune, nous n'allons pas laisser ce genre de pratiques mettre en péril la vie de ces populations. Bientôt, ça sera la période hivernale. Ces protections des berges-là, aujourd'hui, s'ils ne tiennent pas, l'eau va les emporter. Il y a des risques d'inondation à 90%. On va continuer à prendre des dispositions pour la quiétude de nos populations.
Et cette brève, 8 morts, 19 blessés, dont 7 graves, c'est le bilan d'un accident de la route hier à 19 km de Bouza, de la région de Tawa. Une information notifiée à notre correspondant par le major du district sanitaire de Bouza. C'est un véhicule de transport appelé communément Dogombaro, transportant des passagers et divers matériaux en provenance du marché hebdomadaire de Bouza, qui s'est renversé avec son chargement. Un problème de freinage serait à l'origine de cet accident, nous apprend notre correspondant à Bouza. En prélude à la première demi-finale de la CAN U20 qui opposera demain après-midi le Sénégal à l'Afrique du Sud, les deux entraîneurs ont animé cet après-midi une conférence d'avant-match au stade général Seynou Kounté de Niamey. Pour Issif Dabo du Sénégal et Thabo Senong de l'Afrique du Sud, les joueurs de ces deux équipes sont en jambes pour la confrontation de demain.
À partir du moment où on travaille bien à l'entraînement, je pense qu'il n'y aura pas de souci parce que c'est sur la base de ce que nous faisons à l'entraînement qu'on va être bon ou pas sur ce match. Comme je le dis tout le temps aux joueurs, les résultats des matchs, on ne les maîtrise pas avant. Nous, ce qu'on maîtrise, c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Essayer de leur donner assez de repères, en tout cas offensifs et défensifs, pour qu'ils puissent aborder les matchs avec la sérénité qu'il faut. Donc, il n'y a pas d'appréhension, on travaille bien et demain, on va juste répéter.
Je veux d'abord féliciter le Sénégal pour le brillant parcours qui leur a permis d'être premier de leur groupe. Nos joueurs sont vraiment contents de jouer un tel match. Nous avons joué contre les équipes du groupe A. Nous les avons pu tester, mais aujourd'hui, nous jouons contre une équipe d'un autre calibre. En venant à la compétition, on s'est dit que c'est une opportunité pour nous de jouer contre beaucoup d'équipes, être confrontés à différentes tactiques. Et c'est en cela que le match du Sénégal est un challenge pour nous.
Des propos recueillis par Mokhtar Hamadou, à présent la partie magazine de cette édition. À l'instar des autres districts sanitaires du Niger, plusieurs difficultés plombent le bon fonctionnement du district sanitaire du département de Falmay, région de Dosso. Selon le médecin-chef du dit district, Falmay a l'une des plus faibles couvertures sanitaires de cette région de Dosso. Dr Idi Djibagé Aboubakar est interrogé par Mokhtar Hamadou.
Malgré les efforts des ressortissants et la diaspora du département de Falmay, région de Dosso, pour l'amélioration des conditions sanitaires des populations, les défis restent encore énormes.
Au niveau du département de Falmay, je pense que comme difficulté, on peut dire que nous avons l'une des plus faibles couvertures sanitaires de la région. C'est vrai, on n'est pas les derniers, il y a Junjou qui souffre aussi, mais nous avons un taux de couverture sanitaire à 40,26%, c'est-à-dire seulement 40,26% de la population du département se trouve dans un rayon de 0,5 km de formation sanitaire. Et quand vous avez effectivement une population éloignée de formation sanitaire, ça va un peu impacter sur la fréquentation des formations sanitaires. C'est pour ça qu'on a développé des stratégies avec l'UNICEF. Vous voyez des relais au niveau des villages éloignés qui prennent en charge, surtout chez les enfants, les catégories de la gratuité, les maladies les plus courantes chez les enfants.
Quelles sont les autres difficultés auxquelles les formations sanitaires sont confrontées dans le département de Falmay?
Dans Falmay, on a environ 34 agents au niveau de nos formations sanitaires contractuelles. Presque tous sont contractuels. On n'a qu'une seule infirmière certifiée d'État à Belende qui n'est pas contractuelle. Mais je vous dis, tous les autres sont des contractuels. Imaginez avec les grèves que les contractuels ont eu à faire. On a beaucoup souffert de leurs grèves-là. Aussi, on a 5 ambulances qui sont en mauvais état. Autre difficulté aussi, le ministère de la Santé a doté les CSI de Savola en matériel, en tout cas biomédicaux. Dans ces matériels-là, vous avez des centrifugeuses, en tout cas des matériels de laboratoire. Vous avez même effectivement un spectrophotomètre qui peut en tout cas faire beaucoup d'examens complémentaires, beaucoup d'examens biologiques et biochimiques. Il est là disponible ici, mais on n'a pas un technicien de laboratoire qui peut manipuler ça. Nous espérons en tout cas, même si c'est un appelé des services civiques, un technicien de laboratoire, en tout cas c'est notre souhait le plus vif, que nous ayons un laboratoire qui va pouvoir manipuler l'appareil-là pour prendre en charge les examens complémentaires de nos patients. Mais alhamdoulilah, je pense que dans notre département ici à Falmay, la population a bien compris. En tout cas, les gens n'attendent pas l'État pour les choses. Les gens comprennent bien qu'ils doivent faire pour le département.
C'est la fin de ce journal, mais ne quittez pas, les programmes se poursuivent. Revoir à la hausse l'âge de la retraite, pourquoi et quel impact sur la jeunesse et le fonctionnaire sur le point d'aller à la retraite. C'est la thématique du forum de ce soir et c'est avec Rahila Tousmana.